Wagon Livre, votre émission littéraire. Wagon Livre, un voyage au cœur de l'actualité littéraire, présenté par Yannick Petit. Wagon Livre, c'est tous les samedis de 11h à midi sur Radion.
Quelques petites minutes. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à bord de Wagon Livre, votre émission littéraire. À l'approche des fêtes de fin d'année, j'ai pensé qu'on pouvait évoquer l'ouvrage de notre invité. Son ouvrage s'intitule « Avalon en fête ». Évidemment, aujourd'hui, notre émission est très centrée sur la ville d'Avalon, au sud du département de l'Yonne, ville porte du Morvan, avec un beau patrimoine. Et puis pour parler du patrimoine et de l'histoire de cette ville, je crois qu'il en a une grande légitimité puisqu'il a écrit de nombreux ouvrages sur Avalon, sur son patrimoine, le Avalon d'hier, le Avalon d'aujourd'hui qu'il connaît bien. Et c'est Robert Auclair qui nous accompagne aujourd'hui jusqu'à midi. Bonjour Robert Auclair.
Bonjour.
Robert Auclair, dans un premier temps, puis-je vous demander de vous présenter à nos auditrices et auditeurs ?
Bon, c'est très simple. Je suis un ancien architecte d'intérieur et qui a pris sa retraite il y a 3 ans et qui est passionné par la ville d'Avalon et l'Avalonnais. Et j'ai écrit plusieurs ouvrages sur Avalon, y compris sur la statue Vauban. Nous avons créé avec un ami commun cinéaste les Amis de Jean Després, donc une association. Et on travaille sur Avalon et sur les personnalités avalonaises telles que Jean Després ou sa femme Simone Delatte, dont nous avons fait une exposition à la Maison des Cires de Domcy au mois de septembre.
Vous êtes un enfant d'Avalon, Robert Auclair.
Je suis né à Avalon et toute ma famille est originaire d'Avalon.
Alors, je mentionne les titres des ouvrages. Hein. Il y a Rembrandt, Bugatti, donc Catalogue raisonné, Mémoire sur la statue de Vauban. Alors, il faut le dire peut-être à ceux qui n'habitent pas Avalon, la ville d'Avalon peut s'enorgueillir d'avoir une statue de celui qui a été le concepteur d'une autre statue qui se trouve dans la rade de New York.
Oui, Bartholdi.
Absolument.
Tout à fait. Ça a été une commande municipale. C'est un peu particulier dans la statuaire du 19e siècle, puisqu'habituellement les statuaires exposaient et avaient des commandes d'État. Là, c'est la ville d'Avalon qui a décidé de faire une statue au maréchal Vauban, qui a débuté en 1864 et qui a été inaugurée en 1873.
On rappellera donc Avalon, alors de nombreux ouvrages aux éditions Sutton, dans une collection qui vise effectivement à rendre compte du passé des villes à travers photographies et cartes postales. Je vous avais reçu dans Wagon Livre il y a, je pense, 5 ans maintenant, Robert Auclair, pour Avalon d'hier à aujourd'hui, dans la collection Regards croisés, également aux éditions Sutton. On mentionnera Vauban par Bartholdi, 1873-2013, aux éditions Art en Avalon en 2013. Et puis, le tout dernier ouvrage, en attendant le prochain, vraisemblablement l'année prochaine, Robert.
En début d'année, oui.
Avalon en fête, toujours aux éditions Sutton. Je pense qu'il est important de rappeler que finalement, ce patrimoine d'Avalon, vous y êtes attaché parce que vous êtes natif de cette ville, vous êtes un homme attaché aux arts, vous l'avez dit, vous êtes architecte d'intérieur, vous êtes sensible aux beaux objets, aux créations, mais vous êtes aussi un grand collectionneur, Robert Auclair.
Oui, grand collectionneur. Depuis plus de 40 ans, j'ai une iconographie qui est relativement importante sur tous les monuments et les fêtes de société à Avalon. Maintenant, je m'étends un petit peu plus parce que je vais aller sur le pays avalonnais, mais c'est vrai qu'Avalon est riche en iconographie puisque toutes les manifestations, qu'elles soient religieuses, politiques, laïques et autres, ont été photographiées par différents photographes avalonnais qui sont Potin ou Monsieur Duverger.
Alors, ces cartes postales, vous en avez combien en cette fin d'année 2019 ?
Difficile à chiffrer parce que si on tient compte de toutes les cartes postales, y compris les petites, ça peut aller sur les 5 ou 6 000. Mais le plus intéressant de la collection, c'est ce qu'on appelle les cartes photos. C'est-à-dire que ce sont des tirages spécifiques photographiques et non pas des reproductions d'imprimerie. Et ces cartes sont très difficiles à trouver parce qu'elles ne sont jamais localisées.
Mais où les trouvez-vous ? Comment déniche-t-on ces petits trésors photographiques, visuels, qui offrent une perspective de ce qu'était la ville, de ce qu'était la mode des femmes, des hommes, des traditions et des fêtes, pour certaines totalement disparues aujourd'hui ?
Au début, c'était dans les salons internationaux de la carte postale, qui se situent à Paris ou éventuellement à l'étranger. Vous avez aussi sur Internet maintenant, puisqu'on arrive à trouver sur des sites relativement particuliers sur la carte postale. Et après, c'est du bouche à oreille. Moi, je suis maintenant connu par mes livres, donc il y a des gens qui m'interpellent ou qui prennent contact avec moi en me disant bah, « j'ai ceci, j'ai cela, ou ma famille a ça, ou ceci ». Et c'est comme ça que j'ai maintenant presque 350 devantures de magasins sur Avallon.
Identifié,
localisé, et je m'efforce toujours de trouver la publicité qui va avec la carte postale.
Alors vous vivez beaucoup en région parisienne, vous revenez bien sûr ici à Avallon parce que vous y avez des attaches familiales importantes. Quand on est entre son métier, la passion de faire un livre sur sa ville natale, les recherches, on trouve le temps et bien sûr il y a les locaux peut-être qui vont spontanément dire « Tiens Robert, j'ai un document susceptible de t'intéresser », mais après il faut peut-être chercher dans d'autres sources, je ne sais pas, les états civils, la presse très ancienne, comment fait-on Robert Auclair ?
C'est difficile à trouver, mais en consultant les bibliothèques, on arrive toujours à ouvrir une porte qui nous donne accès à quelque chose et qui nous confirme éventuellement un document. Donc c'est beaucoup de recherches en bibliothèque, c'est beaucoup de recherches dans les revues locales, journaux locaux, tels que la revue de Lyon par exemple. Et à partir de ce moment-là, il y a beaucoup de recoupements. Lorsqu'on trouve un document et qu'on a réussi à identifier le document, il faut toujours aller voir ce qu'il y a derrière ce document. Il y a toujours une histoire, il y a toujours une porte, il y a toujours une anecdote, il y a toujours un chien écrasé, il y a toujours une inauguration. Et quelquefois, on a un texte et il faut chercher la photo. Ou alors, inversement, on trouve la photo et après, il faut chercher le texte.
Alors bien sûr, les témoins ne sont plus là. Je pense à l'ouvrage que j'ai entre les mains, Avallon en fait, qui présente des photographies d'avant 1900, pour les plus vieilles.
Entre 1895 et 1933, puisqu'on a eu le tricentenaire de Vauban à ce moment-là. Mais entre 1895 et 1914, il y a quand même relativement beaucoup de documents iconographiques. Oui.
En termes de vente et d'intérêt de vos ouvrages sur le patrimoine d'Avallon, il y a une véritable curiosité, il y a un public, il y a un lectorat.
Ah, j'ai des gens qui me suivent, oui, tout à fait. La première édition, c'est 1400 exemplaires. Et depuis 2006, où j'ai publié mon premier ouvrage sur Avallon, il est pratiquement tous les 6 mois réédité.
Alors vous l'avez dit, un bon millier de documents photographiques, cartes postales. Est-ce que vous pourriez faire un autre volume sur d'autres aspects de la vie des Avallonaises, Avallonais ? Est-ce qu'il y a des thématiques qui pourraient donner lieu à un prochain livre, à condition que vous en ayez envie ?
Alors, j'ai en préparation un livre sur le pays avallonnais, puisque bon, je ne vais pas faire un inventaire sur Avallon. Donc là, je m'étends à toutes les communes composant l'Avallonnais. Et ce livre paraîtra normalement dans le premier semestre 2020.
Toujours aux éditions
Sutton. J'ai un autre projet, ça serait de travailler sur les commerçants d'Avallon. Et vu le nombre de devantures de magasins, ça serait intéressant de recouper les devantures qui existaient au début du XXe et aujourd'hui, faire un rapprochement entre les deux. Et la vie économique et sociale d'Avallon est très riche à ce niveau-là, oui.
Alors, Avallon, en fait, en couverture, on a un superbe cavalier sur le dos d'un éléphant. On reconnaît à l'arrière alors, le café du Chapeau Rouge, mais évidemment, le Chapeau Rouge, aujourd'hui, à Avallon, c'est plus du tout le même lieu. Il y a une espèce de confusion dans nos esprits, d'ailleurs, sur ce qu'était le Chapeau Rouge.
Parce qu'il y avait le grand hôtel du Chapeau Rouge, qui était un hôtel qui était renommé, et vous aviez le café du Chapeau Rouge, qui n'était pas au même lieu et au même endroit. Alors, l'un qui était place Vauban et l'autre était rue de Lyon.
Et donc on voit sur la place Vauban, là où maintenant il y a un sens giratoire, hein, là où se trouve la statue de Vauban, on voit effectivement un éléphant au milieu de la place Vauban. Vous rappelez aussi, Robert, parce qu'on voit ces Avalonnaises et Avalonnais, presque un siècle en arrière, on se rend véritablement compte que la ville a beaucoup changé et la manière dont on l'investissait également.
Tout à fait. Pour revenir simplement à une question de tout à l'heure, bien entendu, les gens sont décédés, mais il y a quand même des enfants, des petits-enfants qui sont là. Et lorsque je fais des séances de dédicace, il y a toujours des gens qui m'apportent des documents en me disant, ou à mon propre livre, en me disant, la photo sur le cirque, là, la petite fille, c'était moi. Et donc, par recoupement, j'arrive à obtenir des noms. Donc, j'ai un livre qui est spécifique à moi, sur lequel j'écris constamment les noms des personnes avec des flèches, etc., pour me retrouver, ce qui me permet d'augmenter lorsque je fais un retirage.
Ce qui est aussi émouvant, c'est qu'on découvre, en parcourant votre livre, l'image d'une France encore insouciante d'avant la Grande Guerre qui fut si meurtrière, notamment pour les populations des campagnes. C'était une jolie France avec des femmes coquettes, radieuses, tant d'insouciance. On joue aux quilles, il y a les fêtes patriotiques, des fêtes catholiques, et c'est les débuts aussi de certaines activités sportives. C'est émouvant de voir en noir et blanc, bien sûr, parce que tous les documents sont en noir et blanc. Bon, la couverture de votre livre a choisi le sépia, c'est pas mal, ce petit côté.
La photo est sépia.
Elle est sépia.
Oui, et la chance que j'ai eue, c'est que mon éditeur, mon éditrice, puisque c'est Emmanuel de Laval, est tombée amoureuse de cet éléphant. Parce que la page de couverture représentant l'éléphant avait été refusée initialement parce que le personnage qui est sur l'éléphant est un peu flouté. Parce que comme il est en mouvement, et donc elle a tellement insisté que ça a été la page de couverture.
Mais on voit derrière une ribambelle d'enfants complètement fascinés par ce mastodonte au milieu de la place Vauban à Avallon. On est dans les années 1910, un tout petit peu avant.
1905-1910, oui. Alors, lorsque l'éléphant représente le cirque Pinder, en fait, et le cirque Pinder était un cirque itinérant avec des animaux sauvages et beaucoup de chevaux et beaucoup de clowns, et parce que l'amusement était simple, en fait. Et lorsqu'il y avait la cavalcade qui passait dans la rue de Lyon et qui traversait toute la ville, ça allait de la place Vauban au carrefour de la rue de Lyon. Et il y a une photo qui est dans le livre, je pense, si ma mémoire est bonne, qui représente un attelage avec 30 chevaux. C'est ça, 30 chevaux.
Ce cirque Pinder.
Cirque Pinder.
Voilà, oui. Vous le dites, s'installa à Avallon le 11 avril 1889, mais il y a eu d'autres.
Pour la première fois.
Voilà,
ça.
Pour la première fois. Oui. Et après, bien sûr, le cirque revient, traverse Avallon en juillet 1914. Un autre cirque est évoqué, c'est McCadon, l'empereur des impresarios américains.
Oui, c'est un cirque américain, oui. C'est un grand cirque. Et lorsqu'il arrivait à Avallon, il est passé plusieurs fois, il restait quelques jours, et la place des Hautes-Bères était occupée par le cirque complètement.
Alors.
Aujourd'hui, c'est des voitures.
Évidemment, à l'époque, il n'y a pas encore le cinéma, bien sûr, il n'y a pas tous les médias. Donc, il y a une vraie curiosité, il y a un vrai sens de l'attraction, alors qu'aujourd'hui, c'est plus anodin. Et encore, quand un cirque vient dans une ville, ça crée débat, parce que parfois, il y a des pétitions, parce que les animaux sont en cage ou emprisonnés ou maltraités. C'est vraiment les mentalités ont considérablement évolué.
On ne peut pas comparer. Et ça a tellement évolué à ce niveau-là que c'en est devenu un peu bête d'ailleurs. Parce que en supprimant les animaux des cirques aujourd'hui, parce qu'on pense qu'ils sont maltraités, on pourrait faire éventuellement des surveillances, des contrôles. Et à côté de chez moi, il y a un refuge maintenant, puisque comme les animaux ne peuvent plus aller dans les cirques, ça arrive dans les refuges. Le problème, c'est que le refuge, il devient trop petit, il n'est pas encore ouvert, mais il est en activité. Et ça crée des problèmes. À l'époque, non. Les gens étaient friands des animaux sauvages. Ils n'étaient pas plus maltraités qu'aujourd'hui. Et les gens n'avaient pas d'autre possibilité que d'avoir des connaissances sur les animaux sauvages en allant dans les cirques.
Et puis il y a un véritable exotisme.
Il y avait non seulement le spectacle, mais il y avait toute la cavalcade avec tous les animaux qui passaient. Les animaux étaient en cage tirés par des chevaux et voyageaient dans toute la traversée de la ville.
Et il y a justement des photographies prises en hauteur où on a les perspectives de la rue, notamment de Lyon, où l'on voit effectivement le cortège et on imagine le personnel qu'il y avait dans ces cirques.
Ah, un cirque entre le chapiteau, tous les centres de jonglage, d'animation, etc. Il y avait presque 300 ou 250 personnes en personnel, oui. Alors vous aviez le premier personnel qui passait, qui annonçait au son de la caisse, etc., et dans les revues de Lyon, les journaux locaux, etc. Et donc il passait pour annoncer la future avenue du cirque. Ensuite, il y avait la cavalcade qui arrivait, le cirque proprement dit arrivé, monter le chapiteau, et là il donnait deux ou trois ou quatre représentations où il restait une semaine éventuellement. Et après il repartait de ville en ville comme ceci et il revenait chaque année.
Nous allons de toute façon au cours de l'émission égrener quelques temps forts de ces fêtes, mais en parcourant le livre, en découvrant les nombreuses photographies ou cartes postales reproduites, on a le sentiment qu'il y avait beaucoup d'occasions de faire la fête.
Il y avait beaucoup d'occasions pour faire la fête. En fait,
plus qu'aujourd'hui ?
Oui, je pense. La vie était dure et donc ils avaient quand même des temps de repos et donc il fallait quand même qu'ils s'amusent un petit peu. Donc au début, il y avait le bal. C'était toujours des bals de plein air. Après, il y a eu le bal Fauveau qui est arrivé où il y avait un parquet qui était toujours en plein air ou sous chapiteau. Mais il y avait toujours un moyen de s'amuser. Je n'ai pas voulu faire un inventaire de tout ce qui était la fête et comment sont devenues les fenêtres, etc. J'ai simplement fait une approche sur différentes fêtes, qui sont les fêtes militaires, par exemple, avec les grandes manœuvres ou des passages de militaires à Avallon. Donc, il y avait toujours la musique. Ça se terminait toujours par un bal. Ensuite, j'ai fait les fêtes religieuses. Il y avait donc l'avenue de Monseigneur Chénelon, par exemple, en 1910.
L'archevêque de Sens, donc
l'archevêque
qui vient
de Sens, tout à fait. Donc, il venait. Donc, c'était aussi une fête et ça se terminait toujours par un bal, sauf que l'archevêque n'y participait pas.
Mais la photographie de l'archevêque avec les ouailles, avec les autorités,
oui, parce que
c'est vraiment un personnage important qui vient rendre visite à la ville.
Ah oui, et il faisait toute une procession dans différentes rues de la ville, toujours. Ça a été tout le temps, que ce soit les cavalcades, que ce soit les fêtes de la musique, les fêtes de l'aviation, etc., ça se terminait ou ça commençait toujours par un passage dans les rues avallonnaises.
Mais on a vraiment l'impression qu'il y avait, dans ces années 1900, 1910, un sens du rituel, un sens de la mise en scène, une volonté de rendre belles les fêtes, grandioses et imposantes.
Oui, alors...
Alors qu'aujourd'hui, c'est plus populaire, plus désorganisé, plus, je permettrais, plus vulgaire.
Oui, alors à l'époque, il y avait une participation de tous. Et en fait, ça partait toujours d'une association, donc soit une association sportive, soit une association musicale ou autre. Et ça permettait donc d'organiser ces fêtes, mais avec la participation de tous. Lorsqu'on regarde les photos sur les différentes manifestations, vous avez un nombre impressionnant d'Avallonnais dans les rues. Et vous avez aussi cette participation. Donc, il y avait les dames avallonnaises et les jeunes filles qui faisaient des fleurs en papier. Ensuite, vous aviez tous les forestiers qui coupaient des sapins, des petits sapins qui étaient plantés le long des rues et qui étaient habillés par justement ces fleurs en papier. Et c'est une participation de tous. Et en fait, la municipalité participait également parce qu'elle voulait développer le tourisme à Avallon et sur le Morvan. Le Morvan, en fin 19e siècle, c'était un peu la montagne noire, donc c'était un peu ténébreux et les gens avaient peur. Ils n'y accédaient pas comme aujourd'hui, il n'y avait pas les moyens de transport, il n'y avait pas tout ça. Et à partir de ce moment-là, la ville d'Avallon a essayé d'attirer le tourisme. Et c'est en organisant des fêtes comme ceci qu'ils ont organisé le tourisme et le développement de la ville, puisque les commerçants aussi participaient.
Et puis Robert Auclair, en observant les documents reproduits dans votre livre, dont je rappelle le titre « Avallon en fête », ce qui surprend, c'est aussi les uniformes. Il y a un esprit de corps, un esprit de groupe, on est identifiable. Il y a une sorte de coquetterie, d'élégance, des femmes comme des hommes d'ailleurs. On s'habille, on est soigné.
Ah, la fête, c'était quelque chose d'officiel. C'était pas comme un mariage, mais ils étaient habillés parce qu'ils allaient à la fête, donc ils mettaient leurs habits de fête également. costume et autres. On a enlevé la blouse, on a enlevé tout ça. Et même les gens des hameaux voisins venaient à la fête. Lorsque vous voyez, par exemple, l'inauguration de la statue Vauban à Avallon en 1873, j'ai estimé à 10 000 personnes le nombre de visiteurs, ce qui était énorme. Aujourd'hui, à Avallon, c'est 7 500 habitants, je
c'est
crois.
C'est ça, hein, à peu près 7 000 habitants.
Donc, 10 000 personnes en 1873, c'est énorme. Lorsque vous avez eu, en 1933, le tricentenaire de Vauban avec l'avenue du maréchal Pétain,
qui représente le gouvernement français.
Qui représentait le gouvernement, qui était le libérateur de...
Le vainqueur de Verdun.
Le vainqueur de Verdun, oui, en 14-18. Et à partir de ce moment-là, vous avez eu à peu près 8000 personnes qui sont venues simplement pour le tricentenaire de Vauban. Tricentenaire qui a été filmé par les films de l'époque, par la société Mauviéton. Et il y a un document photographique qui représente justement le tournage d'une personne avec sa caméra sur le toit d'une voiture.
C'est-à-dire que ces images ont sans doute survécu et sont archivées quelque part.
Elles sont archivées quelque part, tout à fait. Et les gens qui ont connu le cinéma dans les années 50-60, il y avait toujours les informations. Informations Pathé, Mauviéton et autres. Et donc ça servait justement à faire connaître dans les différentes villes du département ou de France, justement, les principales manifestations.
En tout cas, les Avallonnais ne manquaient pas d'imagination pour organiser des fêtes, des spectacles et des divertissements populaires. C'est le thème en images et avec des textes explicatifs de l'ouvrage de notre invité Avallon, en fait. C'est Robert Auclair qui nous accompagne aujourd'hui. On marque, Robert, si vous le voulez bien, un premier intermède musical et puis on se retrouve dans une poignée de minutes.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
What?
C'est Robert Auclair qui est aujourd'hui avec nous jusqu'à midi dans votre émission littéraire pour son livre « Avalon en fête » disponible en librairie aux éditions Sutton. Avalon en fête, c'est effectivement un ouvrage qui nous présente des reproductions, alors soit de cartes postales, de cartes photos, faut pas confondre Robert, cartes postales et cartes photos. Petite distinction pratique.
Pratique, une carte postale c'est un élément imprimé qui est tiré entre 1000 jusqu'à 5000 exemplaires suivant les besoins et suivant l'importance de la ville. Et une carte photo c'est tiré entre 1 et 10 exemplaires. C'est un véritable cliché photographique. Sauf que la carte postale, il y a toujours, elle est imprimée et donc il y a toujours marqué Avalon dessus avec la scène que ça représente. La carte photo, il n'y a aucune indication. Donc c'est un travail de recoupement relativement important et on ne peut localiser la photo que par les monuments qu'il y a autour. Et après, bien entendu, les personnages, etc.
Donc la carte photo est plus confidentielle puisque
c'est plus confidentiel et c'est beaucoup plus cher précieuse. Au niveau de l'achat déjà.
Alors bien sûr, il y a beaucoup de photographies des courses pédestres, on parle du vélodrome des Chaumes, la bicyclette, hein, la petite reine qui devient à la mode. Et puis rappelons qu'il y avait eu le Tour de France, apparu en 1903. Il y a les fêtes du comice agricole, les fêtes patriotiques, les fêtes religieuses. Tout cela est très bien, segmenté dans l'ouvrage. Et puis il y a des manifestations alors, qui ont de l'ampleur aussi, qui sont très originales et qui sont liées aux évolutions techniques et aux progrès des moyens de locomotion de l'époque. Je pense notamment à un meeting d'aviation qui a eu lieu alors en 1913, juin 1913 à Avalon. Et là, Robert Auclair, vous avez quelques clichés dans votre ouvrage.
Oui, j'ai des clichés qui sont très intéressants, des plans généraux et des gros plans sur les avions. Pour revenir simplement avant le meeting avalonnais de 1913, il faut simplement signaler que le premier avion est passé au-dessus d'Avalon en 1910. Mais il ne s'est pas arrêté. Et quelques mois après, il y a eu un deuxième passage d'avion qui était un monoplan Blériot. Et lui, il est tombé en panne d'essence. Donc, il a atterri sur le terrain des Arpanas à Avalon, qui est l'ancien terrain, le nouveau terrain d'aviation qui existe toujours d'ailleurs. Et là, les Avalonnais ont accouru, l'ont dépanné. Et il est reparti. Il est retombé en panne. Et après, on n'a pas eu de nouvelles, mais bon, sans incident. Ensuite, il y a eu une course qui était Paris-Rome-Turin avec l'aviateur Manissiro qui est arrêté à Avalon pour recharger donc son plein d'essence. Il est reparti et il est arrivé très difficilement à destination. Et comme les avions étaient un élément de curiosité, en 1913, la ville d'Avalon a décidé de faire un meeting d'aviation. Et donc, il y avait des démonstrations, des décollages, des atterrissages, des loopings et des acrobaties aériennes, mais aussi des baptêmes de l'air. Il y a quelques Avalonnais qui ont pu bénéficier pour une modique somme à survoler la ville d'Avalon.
Alors bien sûr, il s'agit de trouver un emplacement, hein, il faut improviser un aérodrome. L'entrée est payante, hein, et alors, en plus, si on veut visiter l'appareil dans le hangar, il faut payer 50 centimes, semble-t-il, à ce que j'ai lu.
C'était assez intéressant, mais les Avalonnais étaient assez gourmands de ça, parce que c'était une aventure qui débutait et qui était très intéressante et très, très curieuse pour l'époque.
Alors, les fêtes historiques, c'est très important, Robert Auclair, dans votre livre, vous en rendez compte à travers un grand nombre de clichés de l'époque. Ce sont des spectacles. Alors, aujourd'hui, on fait plutôt des sons et lumières au pied des bâtiments, mais là, ce sont des reconstitutions d'épisodes historiques fortement liés à l'histoire de la ville.
Oui, deux fêtes historiques. Une en 1926, qui était un autre illustre à Avalon, qui est le Grand Condé, donc qui était un personnage historique. On ne va pas passer ni renouveler l'histoire de ce personnage. Mais c'est un personnage qui a marqué la ville d'Avalon à son époque. Et donc, en 1926, la municipalité qui voulait développer le tourisme sur Avalon, a décidé de se faire cette fête historique. Et donc, il y a eu des costumes qui ont été préparés par les dames avalonaises, et par les jeunes filles, etc. La ville a été pavoisée de différents drapeaux, par différentes décorations florales. Et c'est une manifestation qui a abouti à un certain nombre de personnages et de personnes avalonnaises et du département, même de Paris, qui sont descendus pour voir cette chose, puisque la presse en a parlé. Et donc, il y a une différente rue pavoisée et le cortège est passé dans toutes ces rues. Donc, tous les avalonnais qui étaient présents au nombre de 5 à 6 000 ont pu voir justement cette manifestation dans ce cortège, puisque les accès sur la place Vauban ou la collégiale Saint-Lazare étaient des éléments petits et trop de monde, donc ils ne pouvaient pas voir tout sur la totalité. L'autre fête était une heure des 100 jours, donc c'était la venue de Napoléon à Avallon en 1815, et où il a passé une nuit à l'hôtel de la Poste. Et là, vous aviez donc M. Bélanger qui a joué le rôle de Napoléon et tous les costumes étaient prêtés par l'Odéon.
Alors, qui est ce M. Bélanger ?
Il était tailleur au Pauvre Diable, qui était un magasin qui était très connu, qui était à l'emplacement des Maréchaux actuellement.
La brasserie des Maréchaux, voilà, place Vauban également. Alors là aussi, de belles photographies qui montre une reconstitution, une forme de reconstitution historique avec une foule qui répond vraiment présent et qui est attachée à ces fêtes. Hein, on voit des grognards, c'est absolument superbe. Ce serait peut-être quelque chose à remettre au goût du jour en ce début de 21e siècle.
Ça serait possible, puisqu'on a tous les éléments pour refaire, mais je ne sais pas si les Avalonnais aimerait ce genre de fêtes et de spectacles.
Alors, il faut dire aussi, dans ces fêtes historiques, que ce soit l'hommage au Grand Condé ou une heure des 100 jours, les catholiques, les cercles catholiques ont tout de même une forte capacité à mobiliser et la population et les acteurs de ces spectacles.
Oui, différentes associations, cercles catholiques ou autres, étaient preneurs de ce genre de choses parce que ça permettait de faire une éducation historique aux enfants, puisqu'il y a eu beaucoup d'enfants qui étaient habillés, qui étaient décorés, qui étaient costumés. Et ça permettait donc aux jeunes d'avoir une éducation, ça permettait aux anciens de remémorer certaines fêtes historiques. Et c'est resté quand même dans les mémoires. Aujourd'hui, vous avez des vieux avalonnais ou avalonnaises qui se remémorent ces choses-là parce que leurs grands-parents leur ont parlé.
Alors, on rappelle, hein, l'hommage au Grand Condé, c'était en 1926. La grande fête reconstituant le passage de Napoléon de retour de l'île d'Elbe à Vallon, hein, il s'y arrête le 16 mars 1815. Ça, c'est une fête qui a été organisée en 1927. Et d'ailleurs, à Avallon, il y a un très bel établissement, un très bel hôtel, malheureusement fermé depuis plusieurs années maintenant, où se trouve la chambre dans laquelle l'empereur Napoléon a dormi une nuit à Avallon.
Oui, tout à fait. Et en fait, il n'était pas destiné à dormir à Avallon, mais lorsque toute l'avant-garde de Napoléon est arrivé à Avallon, a demandé une audience au maire. Et le maire, lui, il avait prêté serment trois fois et il ne voulait pas renouveler son serment à Napoléon. Et donc, il y a eu un petit conflit entre le maire de l'époque, qui était M. Rodeau, M. Michel Auguste, pour être plus précis, 1775-1832. Et donc, Napoléon lui a demandé certaines choses et il a satisfait sur ces choses qu'il a demandées, des chevaux et différentes alimentation, mais comme il était en bisbille, il n'a pas voulu le recevoir à la mairie. C'est lui qui s'est déplacé à l'hôtel. Donc ce n'était pas un acte officiel ni officieux. Et Napoléon a dormi à Avallon et donc il y a deux plaques commémoratives sur le fameux hôtel qui est fermé aujourd'hui.
Et quand on voit cet hôtel fermé alors qu'il a connu des heures de gloire, paraît-il, Robert, vous avez connu cet établissement ouvert à l'époque où il y avait voituriers et où s'arrêtait une clientèle parfois huppée d'ailleurs.
Ah oui, moi je l'ai connu avec Monsieur Hur, qui était le directeur de l'établissement. Il y avait une bonne cave, une bonne table. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Avallon était une ville-étape pour aller sur la Côte d'Azur. Donc tous les gens qui avaient des moyens de locomotion s'arrêtaient à Avallon et aller à l'hôtel de la Poste. C'était le plus grand établissement, il était très 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 connu, très fréquenté. Et quand Jean Després est devenu connu en tant qu'orfèvre. Il a gardé son atelier à Avallon, qui était Place Vauban, qui est maintenant le Solstice. Et tous ses amis, que ce soit Picasso, Braque, Marie Laurencin, Dieu Géricault et compagnie, s'arrêtaient à l'hôtel de la Poste. Et donc, lui, il les recevait, puisque c'était ses amis, il les mangeait là. Ensuite, dans les années 60, il y a d'autres personnages qui sont arrivés, comme Salvatore Dali, comme Robert Stack, le Désincorruptible. Tous ces gens-là descendaient à Avallon. Lorsque l'autoroute a ouvert son tronçon à Avallon, ça a été un peu la Bérésina à Avallon. Oui. Parce que les gens ne s'arrêtaient plus. Ils passaient tout droit.
Avallon n'était plus ville-étape.
Ça a changé complètement la physionomie d'Avallon et la mentalité à Avallon.
Merci Robert Auclair pour ces précisions. Je rappelle le titre de votre ouvrage « Avallon en fête » aux éditions Sutton. Ça me semble être aussi un beau cadeau pour Noël à glisser sous le sapin aux membres de sa famille pour se replonger avec nostalgie, mais admiration et émotion dans ces rues d'Avallon, ces visages d'Avallonaises et d'Avallonais disparus.
Oui, parce que c'est un souvenir qui persiste en fait. Parce que lorsqu'on interroge les gens ou qu'on croise des gens, ils ont toujours ça en mémoire. Il les avait rangés quelque part, il l'avait un peu oublié, mais là, c'est revenu en mémoire. Et il y a beaucoup de gens qui m'interrogent sur certaines photos parce que justement, ils ont soit ils sont enfants dessus ou alors ils ont leur grand-père, leur grand-mère, etc. C'est assez émouvant de retrouver tout ça.
Si vous le voulez bien, Robert, on marque une nouvelle pause musicale et on se retrouve pour la suite de ce wagon livre avec notre invité. Nous sommes ensemble sur Radion jusqu'à midi. C'est Robert Auclair qui est aujourd'hui l'invité de votre émission littéraire pour un ouvrage intitulé « Avallon en fête » disponible aux éditions Sutton dans une collection qui met en valeur des reproductions de cartes postales anciennes, de cartes photos ou de documents iconographiques de l'époque. En tout cas, Robert Auclair nous fait redécouvrir Avallon à travers les fêtes, des fêtes populaires, des fêtes religieuses, des fêtes historiques, des fêtes de la musique aussi qui sont très 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 importantes parce qu'il y a une vie associative qui est riche, notamment autour de la musique, Robert Auclair.
Oui, parce que le premier concours de musicage qu'il y a eu à Avallon, c'était en 1905. Et il y a eu un peu plus d'une trentaine de sociétés musicales qui sont venues, qui ont défilé dans des landaus, attelés avec des chevaux. Vous avez beaucoup de personnages qui étaient à pied, mais il y avait de la musique partout. Et cette musique était relativement importante parce qu'il y a eu différents concours de musique dans les années qui ont suivi après. Et il y a toujours eu des récompenses et des hautes récompenses, puisque en 1905, la première récompense était une médaille qui avait été faite par un sculpteur qui s'appelait Loiseau Bailly, qui est originaire de Fay, donc de Sauvigny-le-Bois, et qui est un monsieur qui a eu une carrière internationale.
Et alors la ville est décorée, et notamment, Robert, vous avez trouvé des cartes postales qui montrent la rue de Paris, qui hébergeait à cette époque, alors je ne sais pas, dans les années 1910, la gendarmerie d'Avallon. Et il y a une reproduction de lanterne confectionnée par un artiste local.
Qui est Monsieur Guenlet, oui.
Alors, impressionnant ces lanternes, je ne sais pas, elles font 3 mètres de haut.
Elles faisaient entre 2 et 3 mètres de haut, oui. Et c'était des lanternes qui étaient illuminées. Et donc on a des photos anciennes représentant ces lanternes la nuit. C'est des chefs-d'œuvre de papier.
Hein. Oui, vous écrivez même que c'est féerique.
D'ailleurs. Ah oui, c'est complètement féerique. Et donc, il y en avait trois qui étaient dans la rue de Paris et de thèmes différents. Et en fait, on a toujours voulu comparer Avallon avec Auxerre, parce qu'Auxerre a eu les premières fêtes illuminées donc, au XIXe siècle. Et donc, on a toujours voulu comparer Auxerre à Avallon. C'est des fêtes qui étaient complètement différentes, même si c'était des fêtes militaires, religieuses ou autres. Mais ces lanternes, c'était vraiment une spécificité de ce monsieur. Bon, je ne sais pas ce qu'elles sont devenues. Je pense qu'elles ont été détruites par le temps ou détériorées. Mais c'était très important. Et donc, partout où le cortège passait pour la musique, il y avait toujours ces illuminations. Ça a duré quelques années.
Sans vouloir être médisant, quand on voit cette même rue de Paris décorée à Noël avec des clignotements, enfin des étoiles électriques, c'est très en dessous de la beauté, de la perspective de la rue de Paris telle que la carte postale le montre dans votre livre, Robert Auclair.
Oui.
Non,
oui,
vous faites
oui.
ces comparaisons entre la beauté, le goût, qui ont terriblement changé quand même.
Ah, ça a terriblement évolué. Maintenant, on ne ferait plus du tout ça. Avec le laser et tout ça, on arrivera à faire beaucoup mieux. Et peut-être autre chose, ce qui est complètement différent. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que toutes ces illuminations qu'il y avait, ces lampions, ces guirlandes, ces fêtes fleuries, ces sapins partout, ces arbres, ces décors floraux, c'était la participation de tous. Il y avait tous les commerçants qui participaient, il y avait tous les gens, tous les avalonnés qui venaient participer, il y avait la municipalité qui participait.
Donc c'était, il y avait une unité, le vivre ensemble avait alors tout son sens finalement.
Un travail commun, c'est un vivre ensemble, tout à fait. Et aujourd'hui, je ne sais pas si ça serait vraiment possible.
Revenons à un événement très important qui a marqué la ville d'Avallon, c'est le 15 juillet 1933, pour une manifestation autour du tricentenaire de Vauban. Alors d'abord, un petit rappel rapide sur qui était Vauban, pour les plus jeunes peut-être, Robert Auclair.
Ah, Vauban, c'était un homme de guerre, un ingénieur militaire. C'était un grand personnage, l'un des plus grands personnages que la France ait connu, et qui aujourd'hui est toujours mondialement connu et reconnu. Et il est né à Saint-Léger-du-Fourcheray, qui est devenu Saint-Léger-Vauban suite à un décret donc impérial. Et lorsque Avallon a érigé donc la statue de Vauban, initialement, ce n'est pas Vauban que Avallon voulait fêter. C'était le maréchal Davout, qui était né à nous. Et Auxerre s'est approprié le maréchal Davout. Donc, on a pris le plus grand homme qui existait dans la Vallonnée et qui est peu considéré comme un Vallonnais, qui est le maréchal Vauban.
Mais d'un côté, le maréchal Vauban, bien sûr, est connu pour son château de Bazoches, là où il était d'ailleurs un peu exilé, puisqu'il a eu l'audace, un des premiers, à envisager l'impôt pour les aristocrates et la noblesse. C'est la raison pour laquelle Louis XIV, la mort dans l'âme, lui a demandé de se retirer dans les terres un peu brumeuses et sombres du Morvan. Mais quelque part, Vauban n'a pas laissé de traces patrimoniales à Avallon. Il n'y a aucune fortification, aucun rempart. Les remparts actuels sont des remparts qui datent du Moyen-Âge, donc antérieurs à Vauban.
Hormis sa sculpture, enfin sa statue, il n'y a rien de Vauban à Avallon. Rien. Et donc, en 1933, lorsque le tricentenaire de Vauban, Avallon a décidé donc de se manifester pour justement ce tricentenaire, puisqu'initialement, ça ne devait être que des fêtes parisiennes. Et donc, Avallon a demandé à participer. Et donc, ils ont lancé un concours pour apposer sur le piédestal, où il y avait marqué uniquement en lettres d'or le nom de Vauban. Ils ont lancé donc un mémorial par un sculpteur originaire de la Bourgogne, et rien que de la Bourgogne. Et donc, il devait être apposé sur le piédestal. Mais en fait, lorsque la ville d'Avallon, en 1913, avait demandé qu'il n'y ait aucun... Et aucune structure, aucun nom, aucune graffiti dessus ce piédestal, hormis Vauban, ils ont décidé de le mettre derrière. Mais derrière, ça changeait tout, on ne pouvait pas le voir. Ce monument, on peut le voir aujourd'hui sur les murs de la Petite Porte. Et le concours avait été remporté par M. Clotaire Champy, qui était originaire de Varzy. Donc, il représente Vauban avec les fortifications. C'est un bronze, un bas-relief en bronze. On peut le voir, donc, comme je vous ai dit tout à l'heure.
Et qui aurait besoin d'un petit coup de rafraîchissement.
Oui, ça, c'est un petit peu...
Il a mal vieilli. Il y a plus d'un siècle, tout de même.
Non, il n'a pas mal vieilli. C'est juste la patine qui est un peu érodée, c'est tout. Il suffit de refaire la patine.
Il y a aussi... puisqu'il est beaucoup question de photographie, il est aussi question de l'arrivée d'une activité culturelle, c'est le cinéma. Quand les Avallonnais découvrent-ils le cinéma dans leur ville?
Ah, tout au début du XXe siècle. Tout au début. Alors, au départ, il n'y avait pas de cinéma locaux fixes. C'était des cinémas ambulants, comme le théâtre Lamberti ou des choses comme ceci, où il y avait des petites projections de quelques minutes. et donc des lanternes magiques, en fait. Hein. Et ils ont connu le cinéma comme ceci. Et après, il y a eu un premier cinéma qui était le Family Cinéma, qui était installé près de la rue Porte-Auxerroise. C'est un bâtiment qui a été détruit il y a quelques années. Il ne restait plus rien, d'ailleurs. Et donc, c'était une toute petite salle. Et après, longtemps après, dans les années 33, où étaient présentées les actualités mauviettonnes sur les fêtes du tricentenaire de Vauban à Avallon et Paris, ça a été présenté au cinéma Le Palace, qui était situé dans la Grande Rue. C'était le premier cinéma qui était climatisé.
Ah oui, ah oui. Grand luxe pour
l'époque. En 33, le premier cinéma climatisé. Moi, je l'ai connu en étant tout petit. Après, bon, il a disparu pour X raisons. Et il y avait le cinéma, avant d'être un cinéma, qui était le théâtre d'Avallon, dans la chapelle des Visitandines. Et ça a été transformé en théâtre. Monsieur Risky, qui était un photographe avallonnais, enfin, qui n'était pas d'Avallon, mais qui est devenu avallonnais, qui a loué cette salle de théâtre pour faire un cinéma. Qui appartenait à la ville, qui appartient toujours à la ville aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, c'est devenu une salle de cinéma.
On marque une dernière petite étape musicale et puis le moment viendra de conclure peut-être sur vos projets et sur ce que vous nous réservez. Je rappelle, c'est Robert Auclair, auteur de Avallon en fête aux éditions Sutton. Mais je recommande aussi l'ouvrage dont nous avions parlé il y a 5 ans désormais à ce même micro, Avallon d'hier à aujourd'hui, dans la collection Regards croisés, toujours aux éditions Sutton, et qui me semble être des ouvrages extrêmement pertinents et riches pour comprendre ou redécouvrir certains aspects patrimoniaux d'Avallon. On se retrouve dans une poignée de minutes.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Voices in my mind that say I'm not enough. Every single lie that tells me I will never measure up. Am I more than just the sum of every high and every low? Remind me once again just who I am, because I need to know. I'm yours.
You'll have every failure, God. You'll have every victory.
Le temps passe très vite avec notre invité. En tout cas, je vous encourage à découvrir Avalon en fête de Robert Auclair, c'est les éditions Sutton, avec bien sûr une très riche documentation photographique issue de cartes photos, de reproductions, de cartes postales ou de certains clichés qui montrent Avalon dans tous ses états de fête. Robert Auclair, avant de nous quitter, alors vous avez encore des projets, mais des projets qui concernent plus l'histoire d'Avalon et de ses villages environnants.
Oui, ça sera un ouvrage qui s'intitulera « Le pays avalonné ». Et donc, je vais quand même parler un tout petit peu d'Avalon pour situer Avalon dans le pays avalonné. Et il sera constitué donc de trois parties. Il y aura le canton d'Avalon avec différentes communes, Annay-la-Côte, Annéo, Avalon, Bussière, etc. La deuxième partie, c'est les principales agglomérations comme Arcis-sur-Cure, Guyon-en-Terre-Plaine, Joux-la-Ville, Noyers, Carré-les-Tombes, Vézelay. Et la troisième partie, c'est le pays avalonné proprement dit avec Châtelus, Perpétuis, Saint-Bronché, Saint-Père, Sainte-Colombe, etc. Et donc, à chaque fois, dans chaque commune, j'explique l'origine du nom, déjà, qui est relativement important. Ensuite, les différents bâtiments qu'il y a ou monuments qu'il y a à voir avec leurs différentes datations pour l'évolution historique. Et ça permettra de mieux connaître l'Avalonnais puisque c'est toujours concentré sur Avalon et que les hameaux ou les villages autour demandent à être connus et mieux connus.
Et vous aussi, Robert, vous demandez à être connu parce que vous êtes chaleureux, passionné, inlassable, découvreur de documents.
C'est ce qu'on dit. C'est comme ça que j'ai découvert, par exemple, comment le pont de Perpétuis a été construit. Je ne parle pas du petit pont qu'on appelle vulgairement le pont romain, qui date du XVIIIe siècle, mais du grand pont, donc la grande arche, puisque les finances l'ont permis. Et lorsque les échafaudages étaient faits et que le pont était pratiquement terminé, il y a une vague d'eau qui est venue et qui a tout emporté. Ils ont tout reconstruit à l'identique tel qu'il aurait dû être et qu'il est maintenant en l'espace de 6 mois. C'était une grande aventure puisqu'en fait, c'était une grande brèche qu'il y avait et le pays était coupé en deux à ce niveau-là, dans cette partie-là. Et donc maintenant, on peut relier les deux parties et ça a facilité le tourisme.
Donc rendez-vous en 2020 avec un nouvel ouvrage, vraisemblablement toujours aux éditions Sutton.
Oui.
Et donc les hameaux, les villages aux environs oui. de Avalon. Avalon s'efface un peu donc.
Il reste d'actualité, mais disons que Avalon est toujours complémentaire par rapport aux communes qui composent le pays avalonnais. Et j'ai un autre projet. C'est toute l'histoire du monument aux morts d'Avalon de Pierre Vigoureux, qui est un monument assez exceptionnel puisqu'il n'a pas d'arbre. C'est un fossoyeur avec une pelle et une pioche, on en avait déjà parlé. Et là, j'ai écrit toute l'histoire. J'ai retrouvé tous les noms des personnes qui ont souscrit, quelquefois d'une modique somme de 50 centimes, mais donc une participation de tous. Et j'ai fait l'historique et une biographie de tous les noms qu'il y a sur ce monument aux morts. Ça, c'est pour 2021.
pour le centenaire de l'érection de ce monument aux morts d'Avallon, qui est effectivement très imposant et original aussi.
Ah, il demandait à être connu, puisqu'en France, il y en a très peu comme ça. Hein.
Et on rappelle le nom de son créateur et sculpteur.
Pierre Vigoureux, dont je viens de terminer la biographie d'ailleurs.
Merci beaucoup, Robert Auclair, d'avoir passé cette heure avec nous sur Radion, à bord de Wagon Livre. Avallon en fête aux éditions Sutton. Et puis, bien sûr, je le dis aux auditrices et auditeurs, si vous avez, sait-on jamais, des documents cachés dans vos tiroirs et que vous voudriez montrer à Robert Auclair, eh bien, vous n'hésitez pas à nous contacter. On fera suivre l'information, Robert, à moins que vous souhaitiez donner peut-être...
Non, ça passe par votre intermédiaire, très bien, j'aurai le plaisir de vous rencontrer à nouveau.
Merci Robert Auclair, je voudrais remercier d'ailleurs Christiane et Dominique Barbe de l'hôtel Avallon-Vauban qui nous ont accueillis dans leur salle de réunion pour l'enregistrement de cette émission. Je souhaite Robert Auclair une excellente fin d'année 2019, merci encore de votre présence aujourd'hui au micro et puis je salue et remercie toutes celles et tous ceux qui ont eu la gentillesse de nous suivre et puis bien sûr en images. Là, vous n'avez eu que le son, mais en image, eh bien, c'est dans l'ouvrage de notre invité, Avallon en fête, aux éditions Sutton. Et on peut réécouter Robert Auclair en podcast sur le site d'archives de l'émission via internet sur le www.yannickpetit.fr.
Merci à vous.
Merci Robert Auclair, excellent congé de fin de semaine à toutes et à tous. Au revoir et à samedi prochain.